Nous sommes Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, c'est une grande date. C'est la Hula du Rabbi. Et Gimel Tammuz, pour nous, dans le monde chassidique, c'est une date. Quand j'ai entendu ce soir les nouvelles, ça m'a beaucoup rappelé le sentiment qu'on avait le soir de Gimel Tammuz, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, quand c'était Gimel Tammuz, je me rappelle, j'avais 12 ans. Et le monde Rabat, et pas que le monde Rabat, on était dans une sorte d'euphorie. Ça veut dire qu'on n'arrêtait pas de parler de Mashiach, et Mashiach, et Mashiach, et Mashiach. Et c'était impensable de parler et de dire qu'un jour il allait se passer un événement comme Gimel Tammuz. Et comme on dit, l'homme y pense, et Akadosh Baruch Hu, il vient pour nous montrer que c'est lui le patron à bord et que c'est lui qui décide, et que qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, les choses se passeront comme lui il a décidé. Donc, il y a des moments comme ça où on dit Gimel Tammuz c'est Shemesh Begivon Dom. C'est que le soleil s'est arrêté à Givon, ça veut dire qu'il y a des moments dans lesquels le soleil arrête de briller. C'est mamache comme ça, c'est écrit que Gimel Tammuz, c'était le jour dans lequel le soleil s'est arrêté de briller. Il y avait toute une histoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a des moments où on doit comprendre que nous, on doit avancer, qu'il y a des choses qui nous dépassent clairement. Ouais. On va parler maintenant un petit peu, avant de revenir au chapitre 12, qui parle de l'importance du Benoni, et justement apprendre comment on va se travailler. On va s'arrêter sur un des aspects de la manière que le Rabbi avait de diriger le Mont Rabat, et pas seulement de diriger le Mont Rabat. C'est une notion qui revient très 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 souvent. C'est une notion qui revient très très souvent dans le derer, dans la manière de faire les choses du Rabbi. Alors bon, j'ai essayé de préparer un petit peu, mais la vérité, j'avais pas trop la tête. Je sais pas quand vous l'avez entendu, moi je l'ai entendu déjà depuis 6h30. C'était très difficile de se concentrer. J'ai essayé de me concentrer un petit peu. Surtout, c'est en rapport avec... Non, c'est pas grave. Surtout en rapport avec ce qu'on a entendu. On voit que toute personne avec laquelle le Rabbi parlait, à chaque fois, c'était très fréquent, le Rabbi toujours demandait aux gens de faire encore plus et encore plus. Et quand des gens venaient voir le Rabbi après des événements tragiques qui se passaient dans leur vie, et qui disaient on a envie de s'arrêter, on a envie de souffler un petit peu, on voit que dans tous les cas, ce que venait le Rabbi venait et leur disait, au contraire, vous devez rajouter encore et encore et encore et encore. Et pas seulement ça. On voit que, concrètement, même quand des gens venaient avec une grande satisfaction, et ils venaient annoncer au Rabbi que Baruch HaShem, ils avaient réussi à faire un projet de Torah, le Rabbi leur disait, la prochaine fois, vous devez m'annoncer encore le double et encore plus et encore plus et encore plus. Et ça, c'est quelque chose de très particulier qu'on a vu chez le Rabbi. Je voudrais commencer avec une anecdote. Vous savez, il y a un rave en Californie qui s'appelle le Rav Shlomo Kunin. Le Rav Shlomo Kunin, c'était le premier Shliach Chabad qui est arrivé en Californie. Vous savez, le Californie, Los Angeles à l'époque, c'est vraiment dans un endroit dans lequel il n'y avait pas de Torah. Et une fois, on était à 5 jours avant l'Akba Omer. C'était avant que le concept des parades de l'Akba Omer existe comme il y a aujourd'hui dans les rues. Et le Rabbi dit au Rav Shlomo Kunin, il lui dit, est-ce que tu organises quelque chose en Californie pour l'Akba Omer?
C'est vous.
Non, c'est bon.
Il lui dit, est-ce que tu organises quelque chose à l'Akba Omer en Californie? Pour l'Akba Omer en Californie. Alors, le Rav Kunin répond, il dit non, j'organise rien du tout. Le Rabbi lui répond, il lui dit, il te reste encore 2-3 jours avant l'Akba Omer. Tu as encore le temps d'organiser quelque chose pour l'Akba Omer. Et le Rabbi ne lâche pas. D'accord? Le Rabbi ne lâche pas. Il lui dit, tu vas rajouter et tu vas aller maintenant 2-3 jours et tu vas devoir organiser cet événement de l'Akba Omer. Et on voit de manière générale pour toutes les personnes qui voient les vidéos du Rabbi, on le montre aussi souvent le samedi soir, on voit qu'à chaque fois, quand une personne vient annoncer au Rabbi Baruch HaShem, j'ai lancé un projet, qu'est-ce que le dit le Rabbi? Le Rabbi lui dit, la prochaine fois je veux que vous me venez et que vous m'annoncez que vous avez fait le double. C'est quelque chose qu'on a vu très 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 souvent chez le Rabbi, qu'il ne suffisait jamais de ce qu'il y avait. Et même quand une personne n'en pouvait plus, il était comme ça, le Rabbi lui disait, vous ne devez pas vous suffire, au contraire vous devez faire encore plus qu'avant. Et une lettre que le Rabbi l'avait envoyée à la famille Sharon, je ne sais pas si vous êtes au courant, Sharon, il avait perdu un fils. Il a perdu un fils dans des situations tragiques. Sharon, Arik Sharon. Il avait perdu deux fils. Une fois c'était dans les guerres. Et une autre fois, il y avait un de ses enfants qui jouait avec une arme. Il y avait des armes à la maison, il jouait avec une arme. Et malheureusement, mais sans faire exprès, c'est Kadosh Baruch Hu qui décide, sans faire exprès, une belle partie, parce que l'arme était chargée, et il est décédé. Et l'histoire raconte que Sharon, pendant des semaines après, il était complètement déprimé. Parce que c'est une bêtise. J'aurais pas dû laisser l'arme, etc. Et il était déprimé. Il n'arrive même pas à faire le boulot qu'il devait faire. Et la lettre que le Rabbi lui avait envoyée, il avait envoyé une lettre à Sharon, sans que Sharon n'ait rien demandé. Il avait dit, non seulement vous ne devez pas vous arrêter de ce que vous faites, mais vous devez faire encore plus que de ce que vous faisiez avant. Et ça me rappelle aussi une autre histoire. Il y avait aussi, c'était comme ça, ça fait une histoire qui s'est passée, ça fait 45 ans. Il y avait à Kfar Chabad, il y avait une fois, des terroristes arabes qui sont rentrés à Kfar Chabad. Ils sont rentrés, ils ont tué 5 élèves, de sang-froid. 5 élèves, ils ont tué comme ça. Et tout le monde était dévasté, tout le monde était dégoûté, tout le monde ne savait pas quoi faire. Et la communauté de Kfar Chabad, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas comment prendre, ils ne savaient pas quoi faire. Et le rabbi, pendant 3 jours, il n'a rien dit. Pendant 3 jours, parce que bon, des fois, il y a des choses qui prennent du temps pour réagir. Et au bout de 3 jours, le rabbi a dit, Be'em Shecha Binyan Tenuchamu, ça veut dire que vous serez consolés en construisant, en continuant la construction. Ça veut dire que ce qu'on doit savoir, c'est que Akadosh Baruch Hu n'attend pas de nous qu'on sombre dans le deuil. Quand on passe par des situations comme ça et qui sont très douloureuses, qu'on a envie de pleurer, on doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on sombre dans le deuil. Akadosh Baruch Hu, il veut au contraire qu'on va continuer encore plus et encore plus. Et j'ai encore dans mes oreilles, je me rappelle encore de ce que, quand c'était le jour de Guimel Tammuz, le premier jour de Guimel Tammuz en 94, quand on venait d'enterrer le rabbi, il y avait ce fameux Rav Shlomo Kunin que je vous ai raconté, qui était le schler du rabbi en Californie. Okay. Le Rav Kunin, ce même Rav que je vous ai parlé avec, qui était un des pionniers, qui avait hurlé comme ça, dès que le rabbi venait d'être enterré, il avait hurlé, il a dit, Rabbi, au nom de tous les shluchim, je vous jure qu'on ne s'arrêtera pas, on va continuer. Et depuis, c'était quelque chose qu'on a retenu. C'était lui-même, il a raconté plus tard, il a dit, je sais pas où j'ai pris le courage quand on est dévasté comme ça, on venait d'enterrer. Parce que ça, finalement, c'est ça le message du rabbi. Qu'on n'a pas le droit de s'arrêter, on n'a pas le temps de s'arrêter. On n'a pas le droit de s'arrêter. Et au contraire, c'est écrit à propos de Paro, que veka asher yanu oto ken irbe veken ifrotz. Que plus on nous faisait souffrir, et plus les bnei Israël en Égypte, plus on nous faisait souffrir, plus on nous tuait, et plus on s'agrandissait, et plus on augmentait. Ça, c'est la seule réponse. Ils veulent nous embêter, ils veulent nous tuer. Nous, on va montrer encore plus d'enfants, et encore plus d'enfants, et encore plus de Torah, encore plus de misère. C'est la seule réponse qu'on peut avoir. On va rajouter et matériellement, et spirituellement, et c'est la seule réponse qu'on peut avoir. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu de manière très fréquente chez le rabbi, que on n'a pas le droit de s'arrêter. On n'a pas le luxe de s'arrêter. Et c'est pour ça que, on a vu chez le rabbi, quand il est, ce soir c'est Guimel Tammuz, c'est pour ça je donne beaucoup d'exemples du rabbi, lorsqu'il est arrivé à l'âge de 70 ans, Baruch HaShem, bon, alors c'est à l'âge de 70 ans, il y a des gens qui disent, bon, ben, c'est l'âge maintenant de prendre sa retraite, une retraite bien méritée, comme ils disent, d'accord. Et qu'est-ce qu'avait dit le rabbi? Le rabbi avait fait un grand Fabringen, il avait dit, ceux qui me conseillent d'arrêter, ils doivent savoir que non seulement je ne vais pas m'arrêter, mais je vais être encore plus actif qu'avant. Et effectivement, on a vu que depuis, d'après dans les 10 ans, entre 70 et 80, il a fait pratiquement le double de ce qu'il avait fait entre 60 et 70. Parce que c'est ça la notion. La notion, c'est qu'on n'a pas le luxe de pouvoir s'arrêter. On n'a pas le droit de s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. On doit continuer. On est obligé d'avancer. Alors maintenant, ce que je voudrais essayer de m'arrêter maintenant, c'est la notion que de la même manière, et ça, on va arriver au Benoni, de la même manière, des fois, on voit des gens qui sont très très loin de la Torah. Et des fois, on a envie de dire, bon, écoute, le bonhomme, il est loin de la Torah, t'as essayé de le ramener, t'as essayé de l'encourager, t'as essayé de le ramener en cours de Torah, t'as essayé de l'inviter à la tête de Shabbat, t'as essayé, ça marche pas, qu'est-ce que tu vas faire? Alors t'as envie à un moment de lâcher les bras, de lever les bras, de dire ça y est, qu'est-ce que tu vas faire? Ça marche pas. Et là, je vais vous illustrer ça avec une Gemara. Une Gemara qui nous dit comme ça, qui nous dit que s'il y a une fois une personne qui a fait un meurtre, qui a assassiné, il a un juif qui est accusé de meurtre, Dieu préserve. Le Sanhédrin se rassemble, le grand Sanhédrin, c'est le grand tribunal, se rassemble pour déterminer est-ce qu'il est coupable ou pas. La Gemara a dit comme ça. Si tout le Sanhédrin, à l'unisson, disent que la personne est coupable et qu'il n'y a pas une personne qui va trouver des circonstances atténuantes, quel est le dîn? Le dîn est que cette personne-là est acquittée. Vous me suivez? C'est pas logique.
Non, je ne sais pas. Non,
il est coupable, il est coupable.
Il déclare coupable. À l'unanimité,
Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui a un rapport avec l'actualité. Le Gemara dit comme ça, très Sanhédrin. Et le Rambam, il l'amène à la Halakha. Il dit, s'il y a une personne qui est accusée de meurtre, Dieu préserve. Et que le Sanhédrin se rassemble. Et le Sanhédrin découvre que tout le monde à l'unisson, ils sont 70 personnes, 71 personnes. Tout le monde dit, vu les preuves qu'on nous a amenées, il est coupable. Quelle est la Halakha? La Halakha, elle dit, on peut pas rendre coupable une personne comme ça. Pourtant, c'est contraire à la logique. Normalement, dans la logique dans laquelle on vit, au contraire, vous savez qu'il y a certains États aux États-Unis que pour appliquer la peine de mort, il faut que tous les membres du jury et tous les membres du tribunal doivent tous dire à l'unisson qu'il est coupable. À l'unanimité. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le contraire. On voit que dans la Torah, on te dit que si tout le monde dit qu'il est coupable, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Alors, je vous donne un enseignement que le Rabbi avait expliqué une fois, qui va nous expliquer en vérité la grandeur de l'âme juive, comment en vérité il y a un message extraordinaire qui est ici en rapport avec le Tanya, en rapport avec les événements. Ce qu'on doit savoir, on a appris dans le Tanya, depuis le début du Tanya, qu'en vérité, chacun de nous, au fond de nous, nous avons deux neshamot. Une âme divine et une âme animale. Et qu'est-ce qu'on a expliqué plusieurs fois? L'âme divine, elle rentre en fonction en quel moment? Elle rentre en fonction quand on fait des mitzvot. Et l'âme animale, elle rentre en fonction à quel moment? Quand on fait toutes les activités mondaines. Alors, la question qu'on avait posée, on avait dit, finalement, qu'est-ce qui est la neshama la plus présente en nous? Qu'est-ce qui est, d'après vous, l'âme la plus présente en nous? Est-ce que c'est l'âme divine ou l'âme animale? Qui suis-je? Qu'est-ce que vous pensez, d'après vous?
L'âme animale.
C'est évident, on a envie de répondre, c'est l'âme animale. Eh bien, je vais vous montrer un commentaire du Rabbi que j'ai lu, que je viens de voir ici, que je viens de lire cet après-midi. Extraordinaire. Il dit comme ça. Et là, c'est en rapport avec ce qu'on a dit. Il dit, « Ikar metziuto shel isha israeli, l'essentiel de l'existence shel isha israeli juif, inapsho elokit, c'est son âme divine. Shei chelek elokam imal mamash. » Parce que l'âme divine, c'est une partie de Dieu. Ah, tu vas me dire maintenant, mais voilà, moi je sais clairement que la majeure partie de ma journée, je passe pas en train de faire des mitzvot. Alors qu'est-ce que tu me racontes que l'âme divine, c'est mon vrai être? Qu'est-ce qu'il répond le rabbi? Le rabbi répond, il dit, on n'est pas en train de dire que l'âme divine, c'est celle que tu utilises toute la journée. Mais quand tu te poses la question, quand tu te dis, qui suis-je vraiment? Qui je suis vraiment? Qu'est-ce que j'ai au fond de moi? Qu'est-ce qui me dérange réellement? Qu'est-ce qui sont réellement les choses qui m'importent? Eh ben, qu'est-ce qui sont réellement les choses qui m'importent? C'est les choses qui sont liées à la Torah et mitzvot. Les choses qui sont liées au Am Israël. Regardez, c'est pas par hasard. Quand on entend un événement, quand on l'a entendu cet après-midi, quand on l'a entendu ce soir, là, quand on a entendu un événement ce soir, on voit que c'est un événement qui nous touche à tous. Pourtant, c'est des gens qu'on connaît pas. C'est des gens qu'on connaît pas. C'est des gens qu'on n'a jamais connus. C'est des gens qu'on n'a jamais vus. Ah, pourquoi tout d'un coup, quand on entend ça, hein, on oublie tout le reste et on met tout de côté pour se concentrer sur ça? Pourquoi? Parce que c'est des juifs. Et parce que c'est dans des moments comme ça, hein, qu'on se rappelle en vérité qui on est réellement. Que peut-être que dans la vie de tous les jours, notre âme animale peut être égoïste, et on peut être nerveux, et on peut écraser d'autres personnes, et on peut faire du mal à d'autres personnes, grâce à Shalom. On peut avoir peut-être des défauts, et on peut écouter son Yitzhara. Et qu'on peut se dire finalement, avec toute la vérote que je fais, qui suis-je? Peut-être qu'en vérité je suis un rachat au fond de moi. Mais là, il y a des moments comme ça, hein, qui viennent te rappeler, peut-être que dans la pratique de tous les jours, au niveau des actes, peut-être que c'est pas au top, mais il y a des moments comme ça qui viennent te rappeler que qu'est-ce qui m'importe réellement? Et qu'est-ce qui me fait vibrer réellement, c'est mon âme divine. Voilà pourquoi dès que j'entends quelque chose comme ça, qu'un juif qui a été touché, même si je l'ai jamais connu, même si je l'ai jamais vu, comme disait le Baal Shem Tov, c'est quoi Avat Israël? Avat Israël, c'est même pour un juif que tu as jamais connu, que tu as jamais vu, d'accord? Et ben même pour un juif comme ça, tu dois te rendre fou pour que tout aille bien pour lui. Ça on l'a vu, maman. Je sais pas si vous suivez l'actualité en Israël, mais ces derniers mois, depuis qu'il y a eu les élections. Depuis qu'il y a eu les élections, il y avait un grand problème de machloket en Israël. Entre les religieux et les non-religieux, chez les religieux même, entre les sionistes et les non-sionistes. Je sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il y a des grandes tensions. Et on voit, quand on arrive à des moments comme ça, des xérotes comme ça, et qu'on voit comment le Ham Israël entier s'est uni. Dans tous les courants, qui n'a pas mentionné ces trois noms-là, que tout le monde s'est uni, c'est là que ça nous montre qu'en vérité, même si dans la vie de tous les jours, peut-être notre âme animale nous fait faire un peu de bêtises, et même beaucoup de bêtises, mais il y a des moments comme ça qui viennent nous rappeler qu'en vérité, au fond de nous, on est tous ma minim, et que le vrai moi, c'est pas mon âme animale. Le vrai moi, c'est mon âme divine. Ah, pourtant, mon âme divine, elle est en fonction seulement 5% de la journée, et encore, c'est pas grave. Ça, c'est parce que j'ai un Yetzara qui est très fort. Mais le vrai moi, c'est pas mon âme animale. Le vrai moi, c'est mon âme divine. Ça, c'est un commentaire que le rabbi dit ici. D'ailleurs, c'est pour ça, hein, qu'on dit que, au fond de nous, nous avons deux âmes. Une âme divine et une âme animale. Après, on va arriver tout de suite au texte. Après, on va trouver ça dans le temps de texte. On a au fond de nous une âme divine et une âme animale. L'âme divine, c'est un morceau de Dieu. Vous croyez vraiment que le morceau de Dieu va être plus faible qu'un Yetzara, le Satan qui va nous casser les pieds? C'est sûr qu'il est plus fort. Seulement quoi? Malheureusement, on n'arrive pas à l'exprimer toujours. Mais vient des moments comme ça, pour nous rappeler qui on est réellement. On sait qu'on a vu, par exemple, quand il y avait, par exemple, des choses comme la guerre de Kippour, ou les guerres en Israël, ou les choses comme ça, on a vu qu'il y avait des juifs qui étaient très 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 loin de la Torah. Il y avait des gens qui faisaient même pas Kippour. Il y avait des gens que, quand ils ont entendu dans l'actualité que Israël est en guerre, quand ils ont entendu des choses comme ça, ça a éveillé en eux l'identité juive. Pourtant, ils me disent, mais je comprends pas, tu n'y crois pas toute l'année, tu manges du cochon toute l'année, qu'est-ce qu'on raconte des histoires maintenant? Parce que c'est ce qu'on veut t'expliquer. C'est que même si au niveau de la pratique tous les jours, des fois un juif, malheureusement, il se comporte pas bien, mais il y a des choses qui vont venir lui rappeler qui il est réellement. Et que celui que je suis réellement, c'est pas comment je me comporte toute la journée. Celui que je suis réellement, c'est à des moments clés de la vie, quand je veux me rappeler, comme par exemple à Kippour, comme à des moments comme ça, qui vont me rappeler qui on est réellement. Qu'il y a des moments comme ça, que ça nous rappelle qui on est réellement. Pourquoi? Alors, je finirai juste avec deux références, après on va aller dans le texte. Il y a un texte qui dit que le Baal Shem Tov a dit que les Bnei Israël sont appelés Eretz Refetz. Les Bnei Israël sont appelés une terre de convoitise. Ça veut dire quoi? Dit le Baal Shem Tov, de la même manière que dans la terre, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trésors qui sont cachés. Et si on creuse la terre, on va trouver des trésors. Dit le Baal Shem Tov, de la même manière, un juif, c'est comme une terre. Et cette terre-là, si tu la creuses, tu trouves des trésors. Ah, maintenant, nous, quand on voit la terre d'un juif, il y a des juifs, des fois, tu crois que c'est de la pierre et qu'il n'y a rien à tirer. Dis, le Baal Shem Tov, c'est une erreur. Toi, tu crois qu'il n'y a rien à tirer. Mais un juif, au fond de lui, il a des trésors. Et donc, quand toi, tu crois qu'un juif, il n'y a plus rien à faire, ça n'existe pas. Bon, peut-être qu'il a une terre qui est un peu difficile, mais ça n'existe pas un juif qui a rien à tirer. Et ça, on l'a vu clairement chez le rabbi. Il y a les gens qui venaient en Yéridout chez le rabbi, qui dans l'entrevue privée chez le rabbi, et les gens qui demandaient de brachot au rabbi et qui correspondaient avec le rabbi, c'était des fois des gens qui étaient anti-religieux. Et il correspondait avec eux, parce que le rabbi croyait très très fort en ce principe qu'un juif, il a en lui une neshama. Et puisqu'il a une neshama, alors on peut tirer quelque chose de lui. Ça n'existe pas un juif qui n'a rien à tirer. Ça n'existe pas, c'est pas possible. D'ailleurs, en passant, hein, j'avais lu une anecdote pour illustrer ça. Hein. Je sais pas si vous la retrouvez là. J'ai un petit peu... Bon, je la retrouve pas maintenant, peut-être je la retrouverai plus tard. Bon, en tout cas, ce qu'on peut comprendre, c'est quoi? Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que dit le Baal Shem Tov, qu'en vérité, quand on cherche chez un juif, on va trouver. Alors maintenant, je voudrais terminer avec ça. Tout à l'heure, rappelez-vous ce que je vous avais dit. Que si le Sanhédrin se rassemble à l'unisson, et que, à l'unanimité, pardon, et que le Sanhédrin, tous ensemble, disent, cette personne-là est coupable, quelle est la halakha? Il n'est pas coupable. Pourquoi il n'est pas coupable? Parce que, dit le rabbi dans une sira, il dit, c'est pas possible qu'il n'y a pas une personne, parmi ces 71 personnes, qui n'a pas trouvé un élément caché chez ce juif-là. C'est pas possible. Parce que c'est pas possible de dire que 71 personnes se sont réunies et qu'ils n'ont pas trouvé un élément bon chez un juif. C'est pas possible. Un juif, il est bon. C'est pas possible. Tous, les 71 personnes, ils vont dire que ce juif-là a assassiné quelqu'un. Srasve shalom. Là, c'est pas chez nous, ça. Chez les autres, ils peuvent assassiner à sang-froid. Chez nous, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une personne qui va venir et qui va dire non, il l'a pas fait parce qu'on a des preuves du contraire. Et si c'est pas le cas, qu'il n'y a pas au moins une personne qui le dit, dit la Gemara, certainement, ça veut dire qu'on n'a pas assez enquêté. Parce qu'un juif, dans sa nature, il est Rahman. Un juif, dans sa nature, il est miséricordieux. Et c'est pas possible que tout le monde à l'unisson accepte qu'un juif a fait ça. C'est pas possible. Certainement qu'il manque des éléments. Et c'est arrivé, la Gemara raconte qu'une fois c'est arrivé comme ça, il y avait un meurtrier juif. D'accord? Enfin, meurtrier, présumé meurtrier. D'accord? Le Sanhédrin s'est rassemblé. Il y avait des preuves. Des témoins qui sont venus. Ils ont témoigné, on dit, on l'a vu tuer. Tout le monde à l'unisson a dit, cette personne-là est coupable. Eh ben, le Sanhédrin a tranché, puisque personne est capable de dire que, de trouver une circonstance atténuante, ils ont dit cette personne-là est pas coupable. Mais c'est sûr qu'il nous manque des éléments. Parce que c'est impossible de dire qu'un juif a pu faire une chose comme ça. Et qu'il n'y a pas une personne qui est capable de trouver un srout. C'est-à-dire, de là, on apprend, de cette Gemara, on apprend la notion du srout qu'il y a dans l'âme Israël, qu'un juif, il est fait d'une nature différente. Et que même si des fois, dans la pratique de tous les jours, on voit malheureusement, on se comporte pas bien, mais un juif, il est fait d'un corps différent, d'une neshama différente. Même le corps d'un juif est différent. Et ce qui fait vibrer un juif, ce qui fait vraiment vibrer un juif, c'est le fait d'entendre ce qui se passe, des choses comme ça. C'est la neshama qu'il a en lui. Et ça, pour terminer, après on va continuer dans les mots, le rabbi, il croyait très très fort en la neshama du juif. À la notion que une neshama du juif, on n'a pas idée où on peut l'amener. Moi, j'ai vu des gens qui sont revenus de très très loin. J'ai vu de mes yeux, d'accord, des gens ici même, qui sont venus de très très loin, des gens qui n'étaient pas Shomer Shabbat, que tout juste ils arrivaient à la fin de Kippour. Et quand on a vu le parcours qu'ils ont fait, tu dis, mais c'est pas possible, c'est incroyable. De mes yeux, j'ai vu ça. J'ai vu de mes yeux à la Yeshiva, j'ai vu de mes yeux ici, des gens qui viennent de très 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 très, très loin, mariés avec des goyotes, tout ce que tu veux, et tu les vois comment ils peuvent revenir, des gens que même moi, j'aurais jamais pensé. Que bon, tu viens pour allumer la Hanouka à la maison, etc. Parce que ça, c'est quelque chose que le rabbi nous a appris, qu'il faut jamais, jamais désespérer d'un juif. Un juif, il a en lui des trésors extraordinaires, et ces trésors, non seulement que tu dois pas écouter ce qu'il dit, mais quand il dit je peux pas le faire, tu dois lui dire tu peux le faire, tu dois le faire, et tu dois t'imaginer déjà qu'il va monter encore plus, et que ce juif-là, il va être capable de lire et de comprendre de lui-même, etc. On n'a pas idée des forces cachées qu'on a en nous, des forces cachées qu'on a en nos enfants, et des forces cachées qu'il y a chez toutes les personnes qu'on connaît. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour arriver au Benoni. Ça, c'est le thème. Quand on lit le Benoni, quand on lit l'histoire du Benoni dans le Perek Yud Bet dans le chapitre 12, plusieurs qui avaient posé la question dans les semaines précédentes, qui avaient dit, mais le Benoni c'est un Superman. Tu me dis que c'est une personne qui va toujours casser son Yitzhara, et que son Yitzhara il attaque et qu'il ne l'écoute pas. Alors plusieurs avaient posé la question, ils avaient dit, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des gens comme ça? C'est même pas un tzaddik. Le tzaddik, il a cassé son Yitzhara. Mais le Benoni, il casse pas son Yitzhara. Le Benoni, son Yitzhara est là. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a expliqué? À chaque fois, il faute pas, il se retient. Alors c'est vrai. Si on réfléchit objectivement parlant, si on réfléchit avec les outils qu'on a par rapport à notre corps, on dit, attends, tu remarques bien. Tu utilises ton corps, tu utilises ton âme animale 95% du temps. Elle fait pas le poids devant la divine. Elle fait pas le poids. C'est évident qu'elle va t'écraser l'âme animale. Mais quand on comprend des choses comme ça, qu'en vérité, cette âme divine qu'on a en nous, c'est une bombe atomique. Cette âme divine qu'on a en nous, elle a un pouvoir quand on arrive à la réveiller, elle fait tout sauter. Elle fait tout sauter. On a des pouvoirs extraordinaires. Disait le Baal Shem Tov, chaque juif, il a au fond de lui un diamant. C'est quoi un diamant? Un diamant, ça veut dire que tu peux avoir un diamant, ça vaut un château. Pourtant, c'est un petit diamant. Pourquoi? Parce que un diamant, il suffit de savoir le faire briller. De la même manière, disait le rabbi, chaque juif, c'est un diamant. Seulement, des fois, le diamant, vous savez comment ils sont les diamants quand on les trouve dans la terre? Comment ils sont les diamants? À l'état brut. Ils sont horribles, c'est moche. Ça brille pas. Il faudrait que ça brille un diamant tout de suite, ça brille pas. D'accord? Il faut le prendre, il faut le travailler, il faut le nettoyer, il faut le polir. Et après, seulement, il commence à sortir. Disait le rabbi, un juif, c'est un diamant. C'est un diamant qui a toutes les qualités au monde. Mais des fois, avec le temps, à force de faire des avérants, ce diamant, il s'est encrassé. Comme il s'est encrassé, on voit plus qu'il brille. Mais en vérité, c'est pas parce que moi je vois plus qu'il brille plus. Au fond de lui, il brille encore. Mais il est caché. Lui-même, il sait plus qu'il brille. Alors notre travail, c'est quoi? C'est de venir, et d'essayer, au travers de différentes mitzvot, d'essayer de polir, et d'essayer de nettoyer ce diamant, et de lui rappeler qui il est. Et avec le temps, on a l'aïmouna que ça va venir. Vous savez, le rabbi, pourquoi on va passer au tanya? J'ai encore autre chose que je voulais rajouter. Le rabbi l'avait lancé au cours de l'histoire, si on peut dire. Il avait lancé 10 campagnes de mitzvot. Pourquoi 10 campagnes de mitzvot? Il y a 613 mitzvot. Parce que le rabbi connaît la génération. Et il y a qu'un de ses dix qui peut connaître la génération. Et comme il connaît la génération, il a donné, avec le temps, dans chaque année ou chaque 2-3 ans, il lançait des campagnes. Et que parce que le rabbi croyait que ces campagnes-là, il croit toujours que ces campagnes-là ont une force particulière pour faire ressortir le diamant d'un juif. Parce que vous comprenez, quand tu arrêtes un juif dans la rue, quand t'as un copain, d'accord, quand t'as un copain qui est loin de la Torah, c'est comme un commercial, tu vas aller le voir, t'as pas le droit à l'erreur. Il faut lui donner un truc qui marche. Tu vas commencer à lui sortir un truc. Toutes les mitzvot marchent. Mais on doit sortir une mitzvah qui va accrocher. Il faut un produit qui accroche. Alors, toutes les mitzvot accrochent en vérité. Mais il y a des mitzvot qui ont un pouvoir accrocheur plus que d'autres. Notamment, je vous les citer. Étudier la Torah. Mettre les tefilines. En 67, le rabbi avait lancé la campagne de mettre les tefilines. 67. Avant la guerre de 67. Avant la guerre. C'est une prophétie. Et avant la guerre, il avait dit, pour protéger l'âme Israël, il faut mettre les tefilines. Personne n'a compris tout d'un coup pourquoi il est sorti. C'était 3 mois avant la guerre des 6 jours. D'accord? 3 mois avant cette guerre-là. Et le rabbi a lancé. Pourquoi? Parce que le rabbi croyait en la force qu'il y a dans les tefilines. Comme j'ai raconté Shabbat, j'ai dit que la yeshiva Eshat Torah, ils avaient fait un sondage et ils ont demandé, donc c'est une yeshiva de Chozrim Bitshuva. Ils leur ont dit, qu'est-ce qui a été le premier déclencheur qui vous a ramené à la Teshuva? Qu'est-ce qu'ils ont répondu d'après vous? Tefilines. Mettre les tefilines. D'accord?
Papa, tu peux allumer la clim, ça ne dérange pas? Merci. Ah, elle est éteinte. Non.
Ça en va. Alors, le rabbi avait lancé 10 campagnes, on va les citer. Première campagne, il avait lancé la campagne des téfilines. Ça veut dire que quand tu as quelqu'un dans ta famille, quand tu as quelqu'un que tu connais, quand tu as un employé, quand tu as un employeur, quand ce que tu veux, un ami, un voisin qui est loin de la Torah, si tu arrives à le convaincre à mettre une fois les téfilines, peu importe pourquoi, tu n'as pas idée, mais les téfilines ont cette capacité de ramener quelqu'un. Ça peut allumer une étincelle chez lui. Et ça, on l'a vu. Des histoires comme ça, je peux vous en raconter des dizaines. Des gens comme ça, ça a commencé par une fois qu'ils ont mis les tefilines. Parce que les tefilines ont cette capacité de réveiller le juif. De réveiller le juif et de faire ressortir le diamant qui est en lui. Parce qu'une fois que tu commences à frotter et que tu vois que ça brille un petit peu, t'as envie de regarder la suite. Et tu frottes, et plus tu frottes, et plus ça brille. D'accord? Ça, c'est la première campagne. Deuxième campagne que Rabbi avait lancée. Encourager un maximum de juifs à venir à un cours de Torah. Alors, des fois, t'as envie de dire, mais, alors, vous savez, à l'époque, quand le rabbi avait lancé ça, il y a eu beaucoup d'opposition. Il y avait des gens qui disaient, mais qu'est-ce que tu vas encourager un juif qui mange du cochon à venir à écouter un cours de Torah? Il y a des gens qui disaient, mais est-ce que c'est pas un manque de respect envers la Torah? Bien sûr, c'est logique de parler comme ça. C'est-à-dire, c'est un manque de respect. Attends d'abord qu'il fasse ses preuves, qu'il mette les tefilines, qu'il vienne à la synagogue, qu'il commence à nous montrer qu'il est sérieux. Et après, tu viens au cours de Torah. En plus, vous savez, ces gens-là, quand ils viennent au cours de Torah, au début, c'est des caractères qui sont durs. D'accord? Et t'as envie de dire, mais attends, il est là pour t'attaquer, qu'est-ce que tu le prends? Et qu'est-ce qu'avait dit le rabbi? Le rabbi a dit, l'étude de la Torah a en elle cette force extraordinaire de faire ressortir l'étincelle et le diamant qui se trouve chez un juif. Donc, quand tu as un ami qui est loin, voilà la deuxième technique, il faut l'encourager à venir même 5 minutes de Torah. Envoie-lui par internet un truc, 5 minutes. Tu dis, écoute 5 minutes de Torah, fais-moi plaisir. Ou bien répète-le un truc. Tu dis, tiens, je veux te répéter un truc que j'ai entendu. Par respect pour toi, il va t'écouter même 30 secondes. On n'a pas idée ce qu'une idée de Torah peut faire. On n'a pas idée comment la Torah, une idée de Torah qui rentre dans la tête, tac, ça fait le travailler. Ça, c'est la deuxième chose que le rabbi avait lancée. Troisième chose, le rabbi avait demandé que dans chaque maison juive, il y ait une mezouza cachère. Au moins une mezouza. Et que même si c'est des maisons, vous savez, quand c'est, si c'est une maison, par exemple, d'un juif qui est marié avec une goya, normalement, on a pas, normalement, à Minadine, on peut pas mettre de mezouza avec bracha. Une maison d'un juif qui habite avec une goya, on n'a pas le droit de mettre une mezouza avec bracha. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce qu'on n'a pas le droit, parce que beitecha, ta maison, faut que ce soit une maison cachère. Si c'est pas une maison cachère, on peut pas. S'il est marié avec une goya, je parle dans la maison principale, pas dans le bureau. Mm. Et pourtant, qu'est-ce que disait le rabbi? Et d'ailleurs, la halakha est comme ça. Le rabbi dit, il faut quand même mettre une mezouza chez lui, sans bracha. Et on a vu, comme, clairement des histoires, comment les mezouzotes, comment la mezouza peut ramener quelqu'un. Et j'ai même entendu récemment une histoire. Une fois, il y avait quelqu'un, alors c'est plus une ségoula, ça. Une fois, il y avait quelqu'un dur à cuire. Impossible de marier avec une goya, catastrophe. D'accord? Et on a réussi à l'encourager à mettre une mezouza, il l'a mise. Et ça marchait pas encore. Il avait encore des pensées tordues qu'il met dans la tête. Le rabbi a dit au Shliach, il a dit chez lui, tu vas mettre deux mezouzotes. Une à droite, une à gauche.
Dans la
même porte. Mais c'est, il était même pas chayav de mezouza. C'est une maison qui était pas chayav de mezouza. Mm. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est une maison qui était exemptée de mezouza. Et il a fini par faire teshuva. Une histoire que j'ai entendue au Kinous HaShlochim, à la convention annuelle des Shlochim, je l'ai entendue, ça fait 2 ans. Celui qui était témoin de l'histoire. Il a raconté, il a dit, on a mis les deux mezouzotes, et il a dit, quelques jours plus tard, il m'a appelé, il a commencé à dire, tu sais, j'ai des remords en ce moment, etc. Et tout. Il a fini, il a lâché la goye, il est revenu, il a fait choix. Ça veut dire qu'il y a des mitzotes qui ont cette capacité. Le fait même de mettre une mezouza. Vous savez, il y a des gens qui disent, mais je laisse tomber, je peux mettre la mezouza, parce que de toutes les façons, je suis pas religieux. Non! Pousse-toi à faire la mezouza, pousse-toi à mettre la mezouza. Et ça, c'est aussi autre chose que disait le rabbi. Il y a des gens qui disent, puisque je suis pas religieux, est-ce que c'est pas quelque part incompatible de faire une mitzvah? Il dit, mais comment je vais mettre les tefilines? Tu sais ce que j'ai fait, la Vera, tout à l'heure? Et tu sais ce que je vais faire ce soir? Moi, je vais mettre les tefilines. Qu'est-ce qu'on répond à ça? On dit non, c'est pas incompatible. Même s'il a fait 612 Averot, la 613 mitzvah qu'il peut faire, fais-la. Il faut la faire. Il faut l'encourager à la faire parce qu'une mitzvah a la capacité de faire ressortir le diamant. Donc on a déjà eu 3 campagnes. La campagne de pousser les gens à mettre les tefilines, la campagne de l'étude de la Torah, la campagne de la mezouza, la campagne de la tzedaka. Pousser quelqu'un à mettre la tzedaka. Même 1 centime. Pousser les gens à mettre la tzedaka à cette capacité aussi de faire ressortir la neshama. Une autre campagne aussi.
Une question. Ça se rajoutait aux autres?
Ça se rajoutait. Bien sûr. Mais c'est les techniques que je vous donne. Si vous voulez un mémo technique aussi dans la tzedaka du Beit Lovitch, vous pouvez prendre en photo. Vous avez un petit logo pour chaque campagne. Et d'ailleurs, vous remarquerez, toutes les campagnes, c'est les campagnes des Chabad. C'est les campagnes que font les Chabad. Tout ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'on fait tous les jours, toute la journée. Ça veut dire qu'on a eu la chance. Vous savez, j'avais entendu une fois un vieux chassid qui a dit, avant, dans la génération d'avant, dans les années 50, 60, on nous disait, il faut ramener les gens à la Torah. On savait pas quoi faire. Qu'est-ce que tu fais pour ramener quelqu'un à la Torah? Tu rentres, tu l'appelles, qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais quoi? On n'avait pas de mode opératoire. On savait pas quoi faire. Et il dit, on a eu la chance que progressivement, le rabbi nous a montré, il nous a donné un derrière, il dit, voilà comment tu fais. Et ça marche. C'est des méthodes qui ont fait leur preuve, qui ont ramené des milliers, des centaines de milliers de personnes. C'est une réalité, ce que je vous dis. Donc on a dit, les téfilines, l'étude de la Torah, poser une mezouza, mettre la tzedaka, bait malet sfarim. Mettre un maximum de livres de Torah dans la maison. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a raconté récemment. Il m'a dit, une fois, le Rav Asimov, il est venu chez lui à la maison, puisqu'il habitait pas loin. Il n'était pas religieux. Il est venu à la maison, il a déposé un livre. Chaque fois qu'il rentre à la maison, il laissait un livre. Et il a dit, maintenant, à l'époque, je savais pas lire. C'était un livre en hébreu, il l'a laissé à la maison. Il dit, maintenant, après, au Hashem, il a fait Teshuva. Il a dit, c'est quoi le livre qu'il nous a laissé à la maison? Il nous a laissé un livre de commentaires sur le Zohar. C'est-à-dire que le gars, ni il savait lire, encore moins il savait lire le Zohar, encore moins les commentaires du Zohar.
C'est vrai.
D'accord? Tu veux dire, ça sert à rien? Et maintenant. Parce que ça, c'est une autre campagne que le rabbi a dit, qu'un livre de Torah qui se trouve dans une maison, Il y a la mezouza par ça. Mais un livre de Torah qui se trouve dans une maison, ça amène une kiddusha à la maison. Et c'est pour ça qu'il faut s'efforcer d'avoir la maison remplie le plus possible de sfarim. Le plus possible rempli de sfarim. Bait, mal et sfarim. Une maison remplie de sfarim. Même si aujourd'hui on a des iPhones, on a des iPads et on a des trucs comme ça dans lesquels on peut trouver tous les sfarim. Aujourd'hui, il y a des applications où tu as 50 000 sfarim, 60 000 sfarim. Qu'est-ce que tu as besoin? Non. Il faut avoir une maison remplie de sfarim.
En français aussi.
Il... Bien sûr, tout. En français, tout ce que vous voulez. Bait mal et sfarim. Et les sfarim, je me rappelle une fois, il y avait une fois quelqu'un qui avait dit au rabbi, il avait dit, je ne sais pas beaucoup de sfarim parce que mes enfants, ils prennent les sfarim et ils s'amusent avec et ils les déchirent. Vous savez, les enfants utilisent les sfarim. Ah, il dit au contraire. Laisse-les. C'est mieux qu'ils aient les sfarim dans la main, qu'ils aient d'autres revues de je ne sais quoi. Ça veut dire que la notion que bait mal et sfarim, le fait même de laisser un livre, tu vas, t'as quelqu'un qui est loin de la Torah. Tu vas lui donner un livre. Tu dis, je t'offre un livre. Il va pas le prendre. Il va le jeter. Il va le prendre. Il va le laisser dans sa voiture. Il va l'amener à la maison. Il va le mettre derrière un placard. Et c'est pas tes affaires. Le fait même de lui laisser un livre de Torah, ça peut avoir un impact. Une autre campagne. Pousser les femmes à allumer les bougies de Shabbat et de Yom Tov. Pour ceux qui étaient là Shabbat après-midi, on a raconté l'histoire. D'accord? Comment? Ils ont commencé par, il y avait une famille en Alaska qui avait commencé par allumer une bougie de Shabbat, et c'est ce qui a ramené cette famille. Autre campagne. Pousser un juif à manger kasher. Et faire tout ce qu'il faut pour manger kasher. Vous savez, au Hachem, j'ai la chance, tous les mardis, d'être co-responsable du Beit Lubavitch étudiant, qui est dans le 5e arrondissement. Et on a, au Hachem, des centaines d'étudiants qui passent. Des centaines d'étudiants qui passent pour prendre un repas. Alors, Baruch HaShem, sur tous les centaines d'étudiants qui passent, quand on arrive à faire un cours avec 10, 15 personnes, on est content. Que des juifs, oui, c'est que des, pratiquement que des juifs. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font ces étudiants? À quoi ils servent ces étudiants? Qu'est-ce qu'ils font là? Alors, dans ce cas-là, c'est quoi? Est-ce qu'on est venu à un restaurant? Parce que finalement, tous ceux qui sont passés, ils n'ont pas étudié un cours de Torah. Est-ce que vous croyez que notre but, c'est uniquement de les amener au cours de Torah et que c'est une carotte, la cacheroute? Pas du tout. Le rabbi nous a dit que pousser un juif à manger kasher, c'est déjà un gain en soi. Si t'arrives en plus à l'amener au cours de Torah, c'est encore mieux. T'as gagné double part. Mais le fait même de pousser un juif à venir à un cours de Torah, de manger kasher, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que le fait même, t'as un juif qui est très loin de la Torah, invite-le au restaurant. C'est ce que dit Rachid sur la kasheroute. Rachid sur la kasheroute, il dit que à Kadosh Baruch Hu, il dit, celui qui mange kasher, il m'appartient. C'est écrit que manger kasher, ça ouvre l'esprit. Manger ta rêve, ça bouche l'esprit. C'est-à-dire qu'après, tu ouvres une guémara, tu ouvres une page, c'est l'esprit qui est bouché. C'est à cause de quoi? Finalement, j'ai cachère. Elle mangeait pas cachère. Donc voilà encore une autre campagne du rabbi. Autre campagne.
C'est uniquement l'aliment ou faire la bracha avant?
Non, l'aliment. Même s'il mange sans kippa. C'est pas grave. Fais-le manger cachère. Le fait qu'il fait rentrer dans son corps la nourriture cachère, eh ben, ça peut faire quelque chose. De la même manière qu'on a vu dans l'histoire des gens qui ont mangé pas cachère et que ça leur amenait des pensées de kfira, des pensées de ils ont commencé à penser à d'autres dieux, Chas v'Shalom. C'est des vraies histoires ce que je vous raconte. Des histoires que j'ai lues et dans le monde ashkenaz, dans le monde sfarad, des gens qui venaient voir le rav, ils disaient, mais je comprends pas, ça fait quelques jours, je commence à avoir des pensées tordues, j'ai envie de rentrer à l'église, j'ai envie de faire des bêtises du préserve. Et le rav lui disait, vérifie tes aliments, il y a quelque chose qui tombe par rond. Et à chaque fois, attaque, on trouvait, il y avait un problème, il y avait la femme du ménage qui a mélangé, etc. Et le problème se réparait avec ça. Oui. J'entends pas la question. À part la bracha? Il faut s'efforcer de couvrir la tête. C'est très bien une capuche.
Mais tu te couvres la tête, c'est ça le principe.
Même une serviette, c'est bon. Tout est bon. Même une assiette. C'est pas le... Bon, après, ça fait un peu bizarre, quoi, mais... Il y a des gens qui vont croire que t'as pris un coup dans le casque. Bon. Donc, je voulais terminer avec ça. Après, on continue dans le Tania. Donc, encore trois autres campagnes que le Rabbi avait lancées, en supplément. D'accord? Donc, parce qu'on arrive, en tout à un total de 10 campagnes. C'était pousser les gens, tahara, tamishpacha, la pureté familiale. D'accord? La pureté familiale, exactement. C'est-à-dire s'assurer que tout va comme il faut entre le mari et la femme. Ainsi que chinour, pousser les gens à l'éducation juive, à éduquer leurs enfants, d'accord? Dans une école juive. Et si c'est pas l'école juive, au moins fonder les Talmud Torah. Et enfin, à Avat Israël. À Avat Israël, l'amour du prochain. Le fait même qu'on montre à un juif qu'on l'aime, ça même, ça peut le ramener à la Torah. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu de manière très très forte chez le rabbi. Il y a des gens qui ont dit que pourquoi ils ont fait teshuva, hein? Parce qu'ils ont vu qu'on les a pris sans a priori. On dit, on te prend comme tu es. C'est pas du style, on te prend et on espère que tu vas revenir et par derrière. Non. On te fait un sourire parce qu'on t'aime comme tu es. Et disait le rabbi, il disait comme ça. Il disait, le monde a été créé pour deux choses. Il a été créé pour Israël et pour la Torah. Nous, ce qu'on espère, c'est que Israël accomplit la Torah. accomplissent la Torah. Mais même si Israël accomplit pas la Torah, hein, puisque le monde a été créé pour deux choses, ça veut dire que le fait même qu'un juif existe sur terre, c'est déjà un but en soi. Donc quand je vois un juif qui n'est pas pratiquant, ça reste un juif. Afalpi shechata Israelou, ça reste un juif, ça reste un Israël. Donc je dois l'accepter tel qu'il est, sans a priori, seulement comme je l'aime. Alors je vais essayer de le pousser à faire teshuva. Mais même s'il fait pas teshuva, je dois l'accepter tel qu'il est, parce que un juif, ça reste un juif, et ça c'est ce que le rabbi nous a appris. Et c'est pour ça que les gens aimaient beaucoup le rabbi. Vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui a demandé au rabbi, il a dit, pourquoi les chassidim vous aiment? Vous savez, chez les chassidim, on aime énormément le rabbi. On aime très très fort le rabbi. Une fois, il y a quelqu'un qui est un français d'ailleurs, un juif français qui a fait teshuva, qui est venu voir le rabbi, qui a dit, pourquoi les chassidim vous aiment? C'est quoi, comment on peut expliquer ça? Le rabbi a répondu, il a dit, parce que je les aime moi aussi très très fort. Et c'est écrit dans la Torah que quand on aime quelqu'un, et ben de l'autre côté, il nous aime. Kemaï mapanim mapanim kenlev adam la adam. C'est-à-dire que de la même manière que le rabbi nous aime, nous aussi on l'aime très très fort. Et pourquoi on l'aime très très fort le rabbi? Parce que le rabbi nous aime tel qu'on est. Comme un père, il aime son fils. Est-ce qu'un père, il va aimer son fils parce que son fils est avec des bonnes notes? Et s'il n'a pas des bonnes notes, il n'aime plus? Bien sûr qu'il aimerait que son fils ait des bonnes notes. Mais un père, il aime son fils quoi qu'il arrive. Parce que c'est mon fils. Et ben c'est la même chose. La relation qu'il y a entre un rabbi et un chassid, et c'est ça ce que le rabbi nous a montré, c'est qu'on doit aimer son frère juif parce que c'est un juif. Comme tu aimes ton fils, comme tu aimes ton frère, parce que c'est ton frère. Même s'il se comporte pas comme il faut, ça reste ton frère, donc tu l'aimes parce que c'est ton frère. Et c'est justement parce que c'est ton frère que tu vas essayer de le pousser à faire tes chouvins. Quand tu viens dans une approche comme ça, hein, c'est complètement autre chose. Comprenez? Je vais vous raconter une anecdote. Bon, c'est un peu, on va revenir au Tania tout de suite. Mais c'est vraiment lié au sujet. Il y avait une fois, une personne qui était dans le bus en Israël. Et il y a une personne qui vient le voir, qui vient lui proposer de faire la bracha du loulav. Bon, pas Chabad. Alors, je vous raconte, ça aurait pu être autre chose, hein, mais bon, là c'est dans l'histoire, alors, pas Chabad. Il lui propose de faire le loulav. L'autre, vous savez comment ils sont les Israéliens, quand ils veulent pas, ils font savoir assez clairement, d'accord? Donc il lui dit, laisse-moi tranquille avec tes histoires, etc., et l'envoie balader. Bon. Ensuite, il y a une personne qui est spectateur de ça, qui regarde, et il voit, quelques stations plus tard, un autre qui monte, un Chabad cette fois-ci, et qui propose à ce juif-là, il lui repropose de faire la bracha du loulav. Alors lui, il voit ça de loin, il se dit, il va se faire déchirer, parce que l'autre... Déjà, l'autre, il est énervé, il va se faire déchirer. Et il lui propose. Et là, l'autre, il accepte. Et lui, il regarde ça comme ça. Il voit, il fait la bracha, il lui met la kippa, bracha, cher kidishanu, la bracha, cher riyanu, il fait tout la bracha. Alors l'autre, il comprend pas, il va voir le bonhomme, il lui dit, excuse-moi, bon, il dit, je suis désolé de me mêler, mais je vous vois depuis tout à l'heure. Et j'ai vu le premier, vous l'avez jeté, et le deuxième, vous l'avez accueilli avec un sourire. Quelle est la différence? Et vous avez fait la mitzvah. Il dit, j'ai expliqué la différence. Il a dit, le premier, quand il est venu me demander, j'ai senti qu'il me demandait pour lui. Il voulait que je fasse la mitzvah pour que lui, il ait un mérite. Est-ce qu'il croit que moi, je vais me rendre fou pour son mérite à lui et qu'il aille se faire mourir? Mais quand le deuxième, il est venu, j'ai senti qu'il est venu pour moi. Parce que comme je suis son frère, j'ai senti qu'il voulait mon bien. Et j'ai senti ça. Alors, j'ai senti ça, il a dit c'est pour ça que j'ai accepté. Alors, ce chassid-là qui a vu cette scène, qui était donc de loin, c'est un vieux chassid. Quand il était en Yéridout plus tard chez le rabbi, il a raconté au rabbi, il a dit voilà, il faut que je vous raconte cette histoire. Le rabbi, il a dit, est-ce que tu as gardé le contact de ce juif-là? Il a dit, parce que pour avoir cette capacité de voir la différence et de sentir, c'est un niveau, hein, c'est compliqué, de sentir qu'il voulait ton bien, je connais pas la suite de l'histoire, est-ce qu'on a réussi à le retrouver, etc. Pour montrer encore une fois que ce que le rabbi nous a beaucoup montré chez Chabad, et je pense que c'est quelque chose que tout le monde, Chabad ou pas Chabad, tout le monde devrait suivre ce chemin-là, et Baruch Hashem, beaucoup de gens suivent ce chemin-là, c'est qu'on doit accepter un juif tel qu'il est. Tel qu'il est. Et on a des campagnes. On a des campagnes dans lesquelles on essaye, Baruch Hashem, de ramener les gens à la Torah avec les campagnes qu'on a citées. Même si ça n'a pas marché, c'est pas grave. Le fait même de rendre service à un juif, c'est Avat Israël, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà une mise en soi. D'accord? Donc c'est pour venir. C'est la raison pour laquelle, pour revenir maintenant au début du cours, on a dit que le rabbi toujours, il demandait aux gens de faire encore plus et encore plus et encore plus. Imagine-toi, d'accord? Quand quelqu'un vient te voir, ta femme vient te voir, elle te dit, voilà, j'ai préparé pour le repas de Shabbat, j'ai préparé 10 salades. Et tu lui dis, 20 salades tu vas préparer. Qu'est-ce que va dire ta femme? Elle va dire, mais attends, oh. T'as qu'à aller faire toi. Un chassid, il vient voir le rabbi. Il lui dit, rabbi, j'ai réussi à convaincre. Vous savez, quelques semaines après que le rabbi a lancé la campagne des tefilines, il y a un chassid qui vient dans ce rabbi, il a dit, Baruch Hashem, en Israël, on est arrivé à 100 000 paires de tefilines qui ont été mises. 100 000. Et le rabbi, il a dit, 100 000, mais il faut 200 000. T'as envie de dire, mais attends, mais pourquoi les chassidim n'ont pas mal pris? Ils n'ont pas mal pris parce qu'ils sentaient que ça venait par amour. Ils sentaient que ça venait par amour et qu'on n'a pas le droit de s'arrêter, on n'a pas le temps de s'arrêter. Toujours plus, encore plus et encore plus. J'ai vu une vidéo aussi cette semaine. Il y avait une fois comme ça, dans la semaine, j'ai vu cette vidéo. Il y avait une fois comme ça, une personne de UGA, c'est un peu l'équivalent du FSJU en France, aux États-Unis, donc qui est venu annoncer au rabbi. Il est venu annoncer au rabbi au dollar. Il a dit, voilà, rabbi, je viens vous annoncer, avec tout le board, tout son comité, il vient vous annoncer qu'on va donner $1 million. À l'époque, $1 million, c'était énorme. Et donc, il dit, voilà, je suis heureux de vous annoncer qu'on vous donne $1 million. Et le rabbi, il lui fait répondre avec un grand sourire, il lui dit, et vous croyez que je vais me suffire $1 million? Alors l'autre, il répond, il dit, non, vous inquiétez pas. Sinon, ça aurait été un mauvais signe si vous serez rassuré avec $1 million. Parce que ça, la notion, c'est, on s'arrête pas. Il y a ça, maintenant il faut viser le double et encore plus. Et ça, c'est le Benoni. Ça, ma mâche, c'est le message du Benoni. Que le Benoni, comment il peut arriver? Comment tu peux prendre une personne qui fait teshuva, une personne qui a un yetzerara, qui l'attaque? Il attaque avec des problèmes, avec des bêtises dans la tête. Comment tu peux imaginer qu'une personne comme ça, qui son yetzerara n'arrête pas de l'attaquer? Comment il fait? Comment il arrive? Comment il fait pour réussir, quand même, à chaque fois casser son yetzerara? Parce qu'en vérité, la réponse, on vient d'expliquer, parce qu'au fond de nous, nous avons une neshama qui est une bombe atomique. Il faut juste savoir l'utiliser. Donc, quelle est la technique? Aujourd'hui, on va développer une technique pour développer la neshama. C'est quoi la technique? La technique, c'est qu'en vérité, qui va expliquer ici, mis à part les 10 mifsaïm qu'on a cités, et une technique qui est très simple qu'on peut appliquer tous les jours dans la vie. C'est qu'il faut savoir que quand on vit un moment très puissant, ça laisse un impact sur la journée. Je donne un exemple. Quand, par exemple, tu es passé par Kippour, t'as eu la fête de Kippour, d'accord, t'es passé par Kippour, on est passé par un moment très très puissant, on est passé par le moment de la Nehila, etc. Quand tu sors de la choule pour aller rentrer chez toi, combien de temps tu es encore dans l'ambiance, et on va dire dans le tu te sens léger, tu te sens proche d'Akadosh. Combien de temps ça dure?
Une semaine.
D'accord?
Une semaine.
Ça dure longtemps. Ça dépend. Après, j'ai envie de dire jusqu'à la prochaine Avera. Voilà. Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'il fait le Yitzhara? Il est là pour t'attaquer, pour t'envoyer une colère, pour t'envoyer un truc, etc. Parce que le Yitzhara, il sait que jusqu'à la prochaine Avera, tu vas te sentir léger. La technique qu'il va expliquer ici, c'est que c'est quoi la technique du Benoni? Le Benoni s'efforce d'être tout le temps en train de faire des mitzvot. Ou bien d'être tout le temps, soit dans une mitzvah, soit dans l'effet d'une mitzvah. Par exemple, il va faire une bonne fila le matin. Une fila, il va mettre 2 heures dans cette fila. Je suis en train de lire en ce moment la biographie. Je vous en ai parlé aussi la semaine dernière, parce que j'ai pas fini. Vous savez, c'est une biographie qui est tellement importante que j'arrive même pas à la lire. Elle s'étudie, cette biographie. La biographie du Rav Nissan. D'accord? Le Rav Nissan qui a été le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Brunois. C'est une biographie qui fait 700 pages. Mais ça fait plusieurs semaines que je l'ai lu le Shabbat. Et j'arrive pas à la finir. Parce que elle s'étudie, c'est une étude. C'est-à-dire, chaque chose, il faut réfléchir pour comprendre. C'est vraiment un limoud. Et là-bas, à un moment, il raconte le programme de ce Rav. D'accord? Le programme de cette fille-là. Vous montrez comment. Et lui, je vous ai dit que lui, c'était un Benoni. C'est pour ça que je parle de lui. Rav Nissan, il se levait toutes les nuits à 3h du matin. 3h du matin. Avant même, première chose, il finit tout le Télim. Tout le Télim. Après, il va au Mikvé. Non, pardon. D'abord, il va au Mikvé, 3h du matin. Après, il finit tout le Télim. Après, il utilise 3h de Chassidut. 3h. D'accord? Après, il se prépare à la Tfila. Il revient encore une fois au Mikvé. Deuxième fois. Au Mikvé. Avant la Tfila. Et cette Tfila, en général, durait 3-4 heures. Ça veut dire, on dit que les élèves de la yeshiva, hein, juste en le regardant faire cette fila, ils étaient déjà teshuva. Juste en le regardant faire cette fila. En regardant les larmes qui coulaient, en regardant comment il était comme ça. C'est vraiment, je vous dis, c'est une biographie extrême, une biographie énorme. Un chassid du rabbi énorme. Ça, c'est l'exemple d'un Benoni. L'exemple d'un Benoni, c'est une personne qui se bat, vous croyez que c'était facile pour lui? Alors pourquoi il fait ça? C'est-à-dire concrètement, il va passer la moitié de la journée, la moitié des 24 heures à être en train de faire quoi? La tefila. Pourquoi? Parce qu'il sait que le secret d'un Benoni, c'est quoi? C'est qu'il faut être soit en train de faire une mitzvah, soit vivre une mitzvah de manière très puissante, de manière à ce que la mitzvah ait un impact sur le reste de la journée. J'ai entendu récemment un rav, quand j'étais au Kinous à Shluchim, ça fait quelques mois, j'avais entendu un rav qui avait dit qu'en vérité, si on veut que nos enfants continuent le derrière de la Torah, et si on veut que nos enfants aient un plaisir de rester dans le chemin de la Torah, et nous-mêmes, il faut inculquer à nos enfants qu'est-ce que c'est que le plaisir d'étudier la Torah. Et il a raconté une histoire. Il y avait un grand rav aux États-Unis qui s'appelait le rav Houtner. Et le rav Houtner, c'est un très grand rav. Le rav Houtner, il a raconté, il a dit une fois à ses élèves, il leur a dit, est-ce que vous savez comment j'ai eu cet amour de la Torah? Il a écrit un livre qui s'appelle Pachad Yitzhak, le rav Yitzhak Houtner. Il a dit, est-ce que vous savez d'où j'ai eu cet amour de la Torah? Il a dit, vous savez? Il a dit, lorsque j'avais 9 ans, une fois, le matin, comme ça, par hasard, j'ai annoncé à ma mère, je lui ai dit, maman, tu sais, aujourd'hui, on fait un sioum. Aujourd'hui, on fait un sioum, on va terminer, je crois, un chumash, un des 5 chumashim. Et il a raconté, il a dit, le soir, quand je rentre de l'école, Je vois, hein, ma mère, elle a dressé la belle table, elle a mis les bougies, et elle a fait un repas de Shabbat. Alors, quand je suis rentré, j'ai dit à maman, je dis, mais c'est pas Yom Tov aujourd'hui, pourquoi t'as préparé un repas de Shabbat? Sa mère, elle lui a dit, mais tu m'as dit ce matin que t'allais faire un sioum, t'allais terminer un chumash à l'école. C'est pas un événement, ça? Il a raconté, il a dit, en tant qu'enfant, ça m'a tellement inspiré, ça m'a tellement marqué, que ma mère, elle m'a montré que c'était important pour elle que j'ai fini un chumash, que j'ai eu cet amour de la Torah. Et de là, le Rav, il expliquait, c'est le Rav Glouchovski d'Israël, qui nous avait parlé au Kinous Shlouchim, ça fait quelques mois, la dernière fois j'étais chez le Rabbi. Il nous a dit qu'en vérité, ce qu'on doit inculquer à nos enfants, et ce qu'on doit s'inculquer à soi-même, c'est l'amour de la Torah. Qu'un événement pour nous, c'est pas quand il y a eu un match qui a été gagné. Un événement pour nous, c'est pas quand il y a eu un truc qui s'est passé avec des people. Un événement pour nous, c'est quand l'enfant, il vient de l'école et qu'il te dit, j'ai eu une bonne note en Kodesh. C'est un événement, ça. Ça, c'est le meilleur, le plus grand événement. On n'en a rien à faire s'il n'a pas eu un bon classement. Enfin, pas qu'on n'en a rien à faire. C'est important qu'il ait des bonnes notes dans le reste, en français, en mathématiques, etc. Mais l'événement, ce qu'il doit faire, l'événement dans ma tête. Et les enfants, ça, on peut pas les arnaquer, les enfants. Un enfant, il sent. Même si tu lui dis Kol HaKavod, bravo, mais qu'il sent que bon, le Kodesh, c'est pas important, il sent l'enfant. Il faut qu'on montre à l'enfant que le Kodesh est le plus important. Et ça, on l'a vu chez le Rabbi. Que le Rabbi, chaque chose était un événement. Même les petites choses de la vie, chaque chose c'était un événement avec la simra, avec, on en faisait un drame, on en faisait quelque chose de, comme il disait, un shturem. Shturem en yiddish, ça veut dire un vacarme. C'est-à-dire chaque petite chose qu'on lui a annoncé, on venait lui annoncer quelque chose, on a dit voilà, Baruch Hashem, il y a un juif qui a mis les tefilines, pac! Shturem, vacarme. Pourquoi? Pour montrer, il n'y a pas de petite mitzvah, une petite mitzvah n'existe pas, ce qu'on a respecté ici. Le Benoni, c'est quoi sa technique? Le Benoni, sa technique, c'est d'essayer de vivre au maximum sa mitzvah. Et voilà pourquoi ce Rav Nissan, il essayait de vivre au maximum sa mitzvah, parce qu'on est persuadé que si tu as bien vécu une mitzvah, ça même, déjà, ça calme le Yetzarara pendant quelques heures. Après, il reviendra, vous inquiétez pas, il va revenir. Mais le fait de vivre une mitzvah, ça même, ça va calmer le Yetzarara. Donc déjà, un premier enseignement qu'on va voir ici maintenant, c'est il faut essayer de vivre la mitzvah. Vive la tefila, vive l'étude de la Torah, vivre ce qu'on fait. Ne pas le faire comme mitzvat anashim melumada, ne pas le faire dans une sorte de routine. Et d'ailleurs, on aura tout un chapitre sur ça, le chapitre 15 et le chapitre 14, qui vont nous expliquer la gravité, pas la gravité, mais enfin, comment la routine peut nous tuer. La routine dans la Avodat Hashem peut nous tuer. Tu peux être tous les jours en train de faire la Torah, les mitzvot, tous les tefilin, les mitzvot, mais comment la routine peut nous tuer? Ce qu'on doit apprendre, c'est casser la routine et avancer. Donc, on va faire un résumé de ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. On a expliqué jusqu'à maintenant comment le Rabbi nous a montré qu'on devait faire confiance à chaque juif. D'accord? On a expliqué les 10 campagnes, comment chaque juif est un diamant, et on a expliqué que c'est la raison pour laquelle quand il y a le Sanhedrin qui a dit que à l'unanimité, ils disent qu'il est coupable, c'est pas possible parce que certainement qu'il y a un juif, il a un srout. Comme on a pu expliquer assez longuement. OK. Donc, dans les mots. On est à Vea Falpikel, et nous, il faut qu'on lise un peu dans les mots quand même. Alors. Combien de temps il nous reste? Bon. Hein?
Oui. La campagne des 10, quand tu l'as dit, c'est dans l'ordre d'importance ou c'est
dans l'ordre? Non, dans l'ordre qui les a lancés. Chronologique. Le rabbi lui-même, il a dit une fois, il a dit que dans le ciel, on m'a dit. Il a dit, j'ai eu un message dans le ciel que maintenant il faut. C'est l'équipe, c'est pas.
Chapitre 9.
Alors on est chez. Non, chapitre 12.
Oui, non, c'est dans le verset 160.
Chapitre 12. On est à Vea Falpikel et Nonikrat Tzadik Klal. Pour le. Oui, Rafa, pas vrai. Mais c'est le Rabbi Tzadik Klal, il a raconté.
C'est Yam
Tzadik. Où c'est Yam Tzadik. Voilà. Alors, page 171.
Ah, en bas.
Ici. Et là, dans ceux qui ont le tania rouge, c'est la ligne qui commence par mitzvot. La page Yudzein. Ve'afalpiken enonikra. C'est l'étude du Ses Tevet. Tetzein. Au niveau du mot Tetzein. Ve'afalpiken. Quand même. Enonikra tzadik klal. Le Benoni. Donc le Benoni n'est toujours pas appelé tzadik. Pourquoi il n'est pas appelé tzadik? Mipne. Donc je vais accélérer un peu parce que j'ai expliqué à l'oral. Mipne. Sheitron azé asher le or nefesh elo kita la chosha v'sirulot shel haklipa nitrim emeila eino ela bishlosh levusha anal velo b'mauta v'atzmuta al mauta atzmuta shel haklipa. Pourquoi le Benoni n'est pas appelé un tzadik? Parce que rappelez-vous ce qu'on a expliqué longuement dans le chapitre 9, d'accord? Dans le chapitre 9 et chapitre 10, qu'est-ce qu'on a expliqué? Pour être un tzadik, il faut que tu as réussi à tuer le Yetzarara et que dans ton essence tu as changé. Or, le Benoni, est-ce qu'on peut dire que dans son essence il a changé? Non. La preuve c'est quoi? C'est que le Yetzarara continue à lui envoyer les idées tordues. Quand une fois, hein, j'ai entendu une fois un Rav qui a raconté, hein, il a dit, il y a une fois quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, Rav, j'ai fait teshuvah. Ça fait 5 ans. J'ai fait teshuvah sur des choses très très graves. Et par Ouk Hashem, j'ai fait une teshuvah extraordinaire pendant 5 ans. Les pensées ne sont plus jamais revenues. Et comme ça, tout d'un coup, 5 ans plus tard, pac, une fois un beau jour, il se réveille, mais sans qu'il ait rien fait, hein. Il n'a rien vu, il a rien vu du tout, pac, tout d'un coup, la pensée lui tombe dans la tête, et il arrive pas à l'enlever. Il se rappelle d'une avéra qu'il avait fait, et le Yitzhahara, il le pousse, il lui dit, si on recommençait. Et ça le rend fou. Alors, il vient voir le Rav, il pose la question au Rav, il lui dit, mais est-ce que ça veut dire que ma teshuva n'était pas bonne? Vous savez ce qu'il lui a répondu, le Rav? Le Rav lui a répondu, il a dit, ta teshuva est excellente. Et estime-toi heureux que le Yitzhahara, pendant 5 ans, il t'ait laissé tranquille. C'est un recette d'Akadosh Baruch Hu. Parce que notre Yitzhahara nous accompagne toutes nos vies. Seulement des fois, quand Dieu il voit qu'un juif va faire teshuvah, hein, alors il fait taire un peu son Yitzhahara pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années. Mais il reviendra. Faut pas se leurrer, il reviendra. C'est sûr qu'il reviendra. C'est pour ça qu'il dit ici. Le Benoni n'est pas un tzaddik. Pourquoi il est pas un tzaddik? Parce qu'il ne s'est pas changé. Et c'est une guerre constante. Chaque fois, il faut ramener l'âme divine, il faut ramener la flamme divine pour essayer de casser le Yitzhahara. Mais c'est chaque fois un combat de tous les jours. Qui m'aouta ve atzmuta shel nefesh avemit shema kliba shebechala l'asmali lo nitre klal mimekoma bebenoni achar atfila she'en drish pe'esh avat Hashem be'itgalut libo bechala l'aimani. Vas-y, est-ce que...
C'est-à-dire quand on fait la guerre, là c'est une guerre.
Oui.
C'est une guerre contre le Yitzhara. Des fois quand on fait une guerre, on laisse un peu de terrain pour se grouper et revenir après. C'est-à-dire que pour parler comme ça, on peut faire... On a l'habitude, de, par exemple, de faire la tefila...
C'est un repli.
C'est un repli stratégique, quoi. C'est l'habitude de faire la tefila...
Donne-moi un exemple, voilà.
Je sais pas, moi. Un type qui fait la tefila du début jusqu'à la fin, et il sent que... Habituellement, il a fait du début jusqu'à la fin, il sent que ces derniers temps, il n'arrive plus. Ça le bloque.
Bon.
Alors, il se regroupe vers, je sais pas, moi, des passages importants, et il les fait avec Kavana, et il laisse le reste comme ça, en jachère pour la prochaine fois.
C'est très compliqué.
C'est pas possible.
C'est sûr que c'est possible, mais c'est très compliqué à répondre à la question. Ah. T'expliquer pourquoi? Parce que, en vérité, c'est très compliqué de savoir est-ce que ça vient du Yetzara ou du Yetzertov. De manière générale, moi je dis que ça vient du Yetzara. Pourquoi? Parce que le rabbi, une fois, il a donné un indicateur très simple. Il a dit: quand tu as une pensée qui te vient à l'esprit, si au bout du compte, cette pensée va te pousser à arrêter quelque chose que tu fais, c'est que ça vient du Yetzer Hara. Si elle va te pousser à rajouter quelque chose, c'est que ça vient du Yetzer Tov. Je me rappelle une fois le Rav Azimov, quand on était élève à la yeshiva, il nous avait parlé une fois en février, il nous avait dit comme ça. Il a dit des fois, un élève de yeshiva, il peut se dire, au lieu de dormir le soir à 11h, je vais dormir à 2h du matin. Donc je vais gagner combien de temps de limoud? 3h. Et au lieu de me lever le matin à 7h, ou bien à 6h, enfin peu importe, d'accord, je vais me lever une demi-heure plus tard. Il dit, ça va, bon, j'ai gagné au change. D'accord, j'ai gagné 2h30.
C'est bon.
Qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est un piège du Yetzara. Au début, le Yetzara est frais, tu dis 2h30. En vérité, c'est un piège du Yetzara. À la fin, tu n'auras ni les 3h du soir, ni la demi-heure du matin. Parce que finalement, le Yetzara, son piège, comme il sait qu'il ne peut pas venir directement te dire arrête-toi. Alors il va te dire, bon, tu enlèves ça, mais tu rajoutes ça. C'est très dangereux. Tu comprends? On n'enlève pas. On n'enlève jamais. Sauf bien sûr si c'est un cas comme tu dis, par exemple, qu'on voit par exemple qu'on avance trop vite par rapport à sa femme, que là c'est pour le bien, c'est mitzvah là. On n'a pas le droit d'avancer plus vite que sa femme, il faut aller en même temps, que là il faut freiner un petit peu pour aller ensemble. Bon, c'est autre chose, ça. Je parle pas de ça. Je parle d'un cas que moi je me dis je m'arrête. Oui, 100%. Ouais. On peut pas, on n'a pas le droit d'avancer.
Ça traîne des années,
quoi? Je parle d'un cas où on est déjà marié. Quand on est déjà marié, qu'on s'est marié dans un certain état, et que un avance plus vite que l'autre, à un moment il faut freiner.
Oui, mais
ça mène au divorce après, c'est inévitable.
Oui, mais s'il y en a un qui bloque.
Ah bon, il faut lui laisser son temps. Moi je continue à faire Torah mitzvot, mais j'ai pas dit que je m'arrête. Mais il faut lui laisser son temps. Ça veut dire que je peux pas mettre la pression à la maison et de dire ouais c'est fini, on doit tout faire, etc. Chacun doit avancer à son rythme.
Lui il prend sur lui, mais pour ce qui les concerne eux deux, il attend quoi.
Pour ce qui les concerne eux deux, il attend. C'est obligé. Tu peux pas un peu, tu peux pas imposer.
Si ça parle de la cache, etc.
Moi je connais, bien sûr. Moi je connais, il y avait des gens comme ça qui ont divorcé à cause de ça, on leur a fortement déconseillé, c'était l'approche du rabbi. Bien sûr. Encore une fois, fidèle à l'approche du rabbi, on n'a pas idée de la flamme divine qu'il y a au fond d'un juif, et même si tu crois qu'il n'y a plus rien à faire, il faut attendre. Seulement, ça c'est dans le cas où on est après le mariage.
C'est-à-dire qu'on peut désobéir à son père mais pas à sa femme.
Quoi? Non, j'ai pas dit ça. Bon, j'ouvre tout de suite la parenthèse que je referme. D'accord? Parce que c'est un cas qui arrive beaucoup. Très souvent, les hommes avancent plus vite que les femmes. C'est une réalité. Je vais vous dire deux choses. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend si on est avant le mariage ou après le mariage. Quand on est après le mariage, on s'est marié les deux dans une certaine situation. Ça veut dire qu'on s'est marié, on correspondait. Maintenant, un, il a commencé à faire teshuva. D'accord? L'autre n'arrive pas à avancer aussi vite. C'est pas qu'il veut pas, c'est que bon, écoute, tu dis, toi t'as essayé de faire tes choses, je ne suis pas marié avec toi comme ça. Alors il y a des gens, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont dire, c'est pas grave, tu avances, et le jour où ça clash, tu divorceras, t'en trouveras une autre. Ça, c'était contraire à l'approche du rabbi. Non, mais sérieusement. D'accord ? Ils disent pas comme ça, mais c'est ça ce qu'ils disent. C'est ça le fond. D'accord ? Ça, c'est contraire à l'approche du rabbi. Le rabbi dit non. Le rabbi dit tu t'es marié avec un juif. Quand vous êtes marié, vous étiez ensemble. Toi, tu avances, c'est pas de problème. Mais elle, tu la laisses avancer, tranquillement. Et elle prendra le temps qu'elle prendra. C'est pas, t'as pas le droit de venir et d'annuler.
Tu peux pas d'accord l'imposer, mais si elle t'impose, elle, de pas avancer.
Non, ça, elle peut pas. Personne peut imposer à l'autre.
Si
non.
Ça existe, hein,
je veux pas qu'il y ait des cours de Torah, je veux pas que t'ailles des machins.
Oui, non, alors, dans ce cas-là, une seconde.
Je veux pas qu'elle ait la tefila.
Au lieu d'aller voir mes copains, je vais aller à un cours de Torah.
Non, je veux pas.
Qu'elle veut pas.
Ni l'un ni l'autre.
Ça, on peut pas m'imposer. Non, attends, une seconde. On peut pas m'imposer ce que je dois faire. Mais par contre, moi, je peux pas. Ça veut dire, il y a des choses dans la maison qui doivent tourner, qui nous semblent de respecter. Mais ça veut dire tout ce qui est au niveau individuel, ça, chacun il avance. C'est la première chose. Ce que vous devez savoir aussi, une deuxième chose, c'est qu'en vérité, quand il y a des divorces à cause de ça, Dieu préserve, d'accord. Et encore plus quand le mari il avance plus vite que la femme, les enfants font un dégoût et les enfants vont s'éloigner encore plus que ce qu'ils auraient pu s'avancer. C'est une réalité ça. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Quand c'est une maison dans laquelle le père est religieux et la mère n'est pas religieuse, 99% des chances que les enfants sortiront pas religieux. Quand c'est le contraire, quand c'est la mère qui est religieuse et le père qui est pas religieux, la mère elle finira par ramener le père, et même si elle a pas ramené, les enfants ils seront religieux. C'est des réalités ça. C'est la vérité. Parce que même si c'est l'homme qui donne la direction, concrètement, qui sait qui fait les choses sur le terrain, c'est la femme. Et tu peux pas enlever ça. Donc ça sert à rien d'avancer trop vite. On peut pas avancer. Il faut laisser le temps. Et chacun, il avance à son rythme. Et bon, après, ben, Bezrat Hashem, les choses vont se faire. Moi, je connais des gens comme ça. Le mari, il est le chapeau, etc. Et la femme, elle est en pantalon. Qu'est-ce qu'il y a? Et alors? Et ben, ça avance. Et progressivement, ils avancent parce qu'on n'avance pas au même rythme. Parce que moi, j'ai décidé d'avancer. Alors, elle doit avancer en même temps que moi. Hein? Quoi?
La belle-mère.
Et tu as l'inverse aussi.
Bon. Tout ça pourquoi? Prends la parler de ça.
Ouais.
Prends ça dans le mariage, là.
Parce qu'on parlait du...
Non, quand il y a qui...
Ah, reculer pour... D'accord, reculer pour mieux sauter. Ça, on le dit s'il a déjà reculé, mais on ne va pas reculer les chasquelas pour ça. Donc, dans les mots. Ki im ratsouf, ahava, mesuterech, i ahava, tivit, sheba nefesh elokit, kemoshit ber lekaman. J'accélère un peu, hein, parce qu'on a expliqué à l'oral. Ve'aza yachol lichot sikhlut aksil ara beitgalut libochal asmali, leitavot tava lechol inyanei gashmiut almazeh ben beiter ben beisur chas v'shalom. Donc j'explique ce qu'il dit ici. Kelu lo itpalel klal. Le Benoni n'est pas dupe. Le Benoni sait bien que même s'il a fait une bonne fila, son yetzara peut revenir et l'attaquer et lui proposer des plaisirs permis ou interdits. Parce qu'un plaisir, le fait même de chercher à avoir du plaisir, c'est pas bon. Donc un plaisir permis ou interdit, comme si qu'il n'a jamais prié. Alors comment il fait le Benoni? C'est quoi la technique qu'il a? Alors il dit seulement, c'est quoi la différence? La différence, et il a seulement, chez Bedvar, Issur, Einaole, Bedato, la Sota Issur, Polomash, Rasve Shalom, et la Irure, Avera, Kashimir, Avera. Je voudrais rajouter un point très important qu'il dit ici. Il dit, le Benoni, d'accord? C'est une personne qui est religieuse, on est d'accord? Comme Baruch Hashem, les gens qui sont autour de la table, il est religieux. Il a fait une très bonne fila, Baruch Hashem. Il est venu à la synagogue. Il est shomer Shabbat, il est venu à la synagogue, d'accord? Shacharit, Mindra, Arvit, il fait cette fila, il sait lire, il fait cette fila, c'est quelqu'un de religieux. Il a fait une bonne fila. Après qu'il a fait cette fila, le Yitzhara, il peut pas lui proposer de faire une Avera. Tout de suite. Parce qu'il sait que, il sait qu'il vient de faire une fila, il est encore chaud. Qu'est-ce qu'il va faire le Yitzhara? Il dit, écoute, j'ai quelque chose à te proposer. Ne fais pas d'Avera. Pense à une Avera. Juste pense. Pense à l'Avera. Pense combien ça aurait été bon de faire l'Avera. D'accord? Tu la fais pas. Tu penses. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué à propos de la pensée? Quand vérité, et là, il va aller encore plus loin de ce qu'on avait expliqué avant. Il va amener la Gemara qui dit que Yirur et Avera, Kashim et Avera. Que penser à une Avera, c'est encore plus grave qu'une Avera. Le fait de penser à une Avera, ça détruit une personne encore plus qu'une Avera. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la pensée, c'est quelque chose qui fait partie de moi. L'action, j'ai fait l'action, après c'est fini, c'est plus moi. Mais la pensée, ça reste en moi, premièrement. Deuxièmement, c'est très difficile à faire quelque chose sur une pensée tordue. Pourquoi? Parce que je me dis, j'ai rien fait. C'est une pensée, qu'est-ce qu'il y a?
C'est pas concret.
J'ai rien fait. Va faire tes choix sur ça. Et tu vas faire tes choix, qu'est-ce que tu vas faire? Très compliqué. Alors qu'est-ce qu'il fait le Yitzhara avec le Benoni? Le Yitzhara avec le Benoni, il vient, il lui met une pensée tordue, une pensée complètement tordue dans la tête. Il dit c'est pas grave, juste tu penses à la pensée, juste tu penses combien ça aurait été bien de faire la Vera. Juste pense à ça. Tu passes à côté d'un, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire comme bêtise, tu passes à côté et tu te dis ah, ça aurait été bien. Juste tu te dis dans la tête, une petite pensée, une seconde, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas la fin du monde. Et ben il dit Yerolim lifol alot le mocho ou le valbelo mitora. Voilà ce qu'il dit. C'est, ça, c'est, regardez, ces six mots-là, tout est dedans. Il dit que le Yetzara, il a tout gagné quand il a réussi à faire ça. Pourquoi? Parce que cette pensée, c'est elle qui va l'évalbélo. C'est quoi l'évalbélo? Qui va l'embrouiller, qui va le perturber, mitora vavoda. Vous savez ce qui se passe? Après, tu viens. Tu essayes de te concentrer dans une page de Torah. Tu essaies de concentrer au cours de Torah. Et t'arrives pas. T'arrives pas à plonger dans le cours de Torah. Pourquoi t'arrives pas à plonger? Tu dis, mais j'ai rien fait aujourd'hui. Parce que le fait même qu'une fraction de seconde, le Yetzara, il t'a envoyé une pensée tordue dans la tête. Et que toi, tu t'es laissé aller même deux secondes. Tu t'es laissé aller, t'as regardé quelque chose, et puis tu t'es laissé un petit peu aller. Et ben, ça même, ça crée dans le cerveau, ça crée dans le cerveau un bilboule. Ça crée un bilboule qui fait que quand tu viens après pour étudier la Torah, tu sens que c'est comme si tu vois flou. T'es gêné. Tu sens que tu vois flou, tu vois pas clair. Le Yetzara a tout gagné quand il a eu ça. C'est-à-dire que le Yetzara, s'il a réussi à capter une seconde de ton attention, il a déjà gagné. Vous imaginez comment c'est compliqué? Tu mets une seconde. Le bonhomme, il a passé 10 heures à faire cette fille-là. Le Yetzara, il vient par derrière, il lui montre une image tordue dans la rue. Et c'est fini, pac! Après, il essaye de... C'est fini, c'est tordu, c'est bloqué. Voilà pourquoi le Benoni, il essaye de tout faire. D'abord, bien sûr, pour éviter la Vera. Mais d'essayer de vivre au maximum dans une ambiance de Torah. Parce que quand on est dans une ambiance de Torah, après, le Yetzara, il a peur de t'attaquer. C'est pas qu'il est plus là, c'est qu'il a peur de t'attaquer. On sait par exemple que lorsque les Hassidim étaient chez le Rabbi, moi j'étais petit encore, mais bon, j'ai eu la chance que mon père m'amenait pratiquement chaque année chez le Rabbi, depuis que je suis né. Et les Hassidim racontent que lorsqu'ils vivaient des moments, des grands moments chez le Rabbi, comme Simchat Torah, comme la Kafos de Simchat Torah chez le Rabbi, comme les fêtes de Sukkot, comme Rosh Hashanah, c'est des moments tellement importants, tellement puissants, que le Yetzara ne touchait pas après. Tu vivais un moment tellement puissant qu'ils n'arrivaient même pas à s'endormir après. Tu rentrais à la maison pour dormir, tu n'arrivais pas à t'endormir. Il est 4 heures du matin, tu n'arrives pas à t'endormir. Tellement t'as vécu un moment puissant, d'une puissance énorme que t'arrives pas, t'es crevé avec le décalage, t'arrives pas à t'endormir, c'est trop puissant, c'est trop fort. Parce que ça veut nous expliquer que le Benoni, c'est quoi la technique qu'il utilise? C'est le fait d'essayer de vivre la mitzvah au maximum, parce que quand on vit la mitzvah au maximum, ça va nous aider automatiquement à calmer le Yitzhara, et que le Yitzhara, c'est pas calmer, faire en sorte que le Yitzhara ne t'attaque pas. Mama rabotenu, comme les Chachamim m'ont dit, Zichronam livracha, shalosh averot en adam nitzol mehem bechol yom. Il y a 3 averot que personne, d'accord, n'est sauvé de ça par jour. 3 averot. C'est quoi les 3 averot? Irur avera, veiyun tfila. D'accord, donc il y a 3 averot. Le premier, c'est irur avera, penser à l'avera. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on n'ait pas une pensée d'avera.
D'accord. C'est
non, pas, c'est principalement ça. C'est ça qu'on parle.
Mais ça peut être n'importe quelle avère.
Tout, mais c'est ça.
Tu peux penser à manger du chazir.
Bah, ouais, mais c'est quand la dernière fois que tu as pensé à manger du chazir? Faut pas être dupe, hein, on sait de quoi on parle. Okay. Ah, c'est clair, ça, c'est clair. Même la Gemara est très claire. Je vais faire ça un tour autour du pot. Irura. C'est très clair. Quoi? T'inquiète pas, ils ont leur Yitzhara, on a leur Yitzhara. Chacun son Yitzhara. C'est pas l'état de quel. C'est pas l'état de Kanyot non plus. C'est normal. Enfin, c'est quoi? Tout le temps, ça a jamais changé. Avant, ils avaient même la Avodah Zara avec. Ils avaient un Yitzhara d'Avodah Zara, comme les Yitzhara des femmes.
Il y a toujours la même chose à Avodah
Zara. L'argent.
Il y a plus, oui, c'est l'argent.
C'est le métier, quoi, de forme.
C'est vrai.
C'est l'argent, ouais.
C'est l'argent peut rendre fou quelqu'un aussi. C'est vrai. Donc, Mahamar, avotez-nous. Shalosh, Averot, en Adam, Nitzol, Mehem, Bechol Yom. 3 Averot, un homme ne peut pas être sauvé. C'est-à-dire qu'il y a 3 Averot, qu'il n'y a pas un jour, qu'on fait pas ses Averot. C'est quoi les 3 Averot? Irur Avera. Iyun tfila et rouler, etc., c'est avak la shonara. 3 averot que la Gemara dit qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on tombe dedans. Première avera, une pensée d'avera qui te passe par la tête. Et que tu te rends pas compte, elle est passée dans ta tête et que tu la laisses aller. Première chose. Deuxième chose, iyun tfila. Est-ce qu'une personne est capable de dire qu'il était concentré à 100% de cette fila et qu'il a pensé à chaque mot de cette fila? C'est impossible. Voilà, la Gemara te dit, c'est impossible. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il n'y ait pas au moins un mot, une phrase de la tfila qui t'a échappé. C'est impossible. Iyun tfila. Deuxième chose, s'approfondir dans la tefila. Troisième chose, avak lachanara. C'est quoi l'avak lachanara? La poussière du lachanara. C'est quoi la poussière du lachanara? Il y a quand je dis du lachanara directement. Je dis, il y a quelqu'un du lachanara directement, bon, c'est du lachanara. D'accord? Il y a des cas dans lesquels tu dis pas du lachanara. D'accord? Je te dis, il me raconte quelque chose, il dit, ah, celui-là, ah. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien.
Ah, c'est encore pire, c'est méchant.
Ça, c'est bien, ouais, ouais, ouais. D'accord. J'ai rien dit. Fais comme si je t'ai rien dit. Voilà. C'est le classique.
Fais comme si je t'ai rien dit.
D'accord. C'est le pire. Et ben, ça dit l'Agmara. Là, je vous ai un peu fait une caricature. Mais dit l'Agmara, hein, qu'il n'y a pas une journée qui passe, ça commence par ça. Et donc, si ça arrive, sans que ça arrive à une personne qui n'est pas Benoni. Donc, si ça arrive au Benoni, c'est-à-dire que le Benoni, il est confronté comme tout le monde. Et donc, ne soyez pas étonnés. Ne croyez pas que parce qu'il y a des pensées comme ça qui nous tombent dans la tête, ça veut dire qu'on est des rachats. D'abord, on est des rachaïm, c'est sûr. Mais, enfin, d'après la définition du Tania. Mais dites-vous que c'est quelque chose qui est normal. Je sais que quand on a fait la première série du Tania, première série parce que là c'est la deuxième série, quand on a fait la première série, il y avait des gens qui étaient presque, entre guillemets, choqués que dans le Tania on parle de choses tellement explicitement. C'est vrai? Mais qu'est-ce que le Tania dit? Le Tania dit, mais c'est écrit dans la Torah. C'est écrit, c'est quoi la troisième partie du schéma? Velo tatoru achare levafrem vachare inechem. Il ne faut pas vous détourner derrière vos yeux. C'est de quoi on parle dans le schéma? Dieu, il te dit, ne te laisse pas aller après ce que tes yeux ont vu. Ça veut dire que Dieu te parle comme un homme. Il te dit, je sais ce que tu as dans la tête, je sais ce qui va te tomber dans la tête. Alors, on ne va pas tourner autour du pot, je vais te dire ce qui va te tomber, je vais te dire ce que tu vas faire attention. Donc, on te dit. Et c'est pour ça qu'il va expliquer dans la suite. Il va expliquer dans la suite de ce Pérec, mais là, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui. Il va parler au Benoni, il va lui dire, ne te sens pas mal du fait que tu as des pensées tordues qui tombent dans la tête. Rassure-toi, c'est normal. Et chaque fois que tu gagnes ton Yitzhara, chaque fois c'est un combat qui fait un plaisir énorme à Kadosh Baruch Hu, que aucun malach et aucun tzaddik n'est capable de faire un plaisir comme ça. Chaque fois que vous avez une pensée tordue qui vous tombe dans la tête, que on a une pensée tordue qui nous tombe dans la tête, d'accord, et qu'on arrive à la repousser, et même si par exemple tu l'as repoussée une fois, elle est revenue, tu l'as repoussée, elle est revenue, et que finalement elle est restée dans ta tête, chaque fois que tu l'as repoussée, tu fais un plaisir à Kadosh Baruch Hu, plus que tous les plaisirs qu'un tzaddik peut faire dans sa vie. Parce que Kadosh Baruch Hu, il est conscient des efforts que c'est pour toi. C'est ça la mitzvah de velo tatoru. C'est pas par hasard, hein, d'accord, c'est pas par hasard si dans le schéma, on te parle de la mitzvah d'aimer Dieu, de craindre Dieu, et c'est ça qu'on a choisi comme exemple. Parce qu'on sait que c'est un combat constant et que c'est un combat que le tzaddik n'a pas. Donc c'est pour ça, il dit ça pour rassurer le Benoni et pour lui donner confiance en soi-même. Je terminerai avec ça.
Pour rassurer le rachat, on fait quoi?
Pour rassurer le rachat, on lui dit qu'il peut faire teshuva. On le rassure pas, on lui montre qu'il peut faire teshuva. Il faut le rassurer, et je voudrais terminer avec ça. Vous savez, une des choses qu'on a vu de manière très puissante chez le Rabbi, c'est comment, et comme j'en ai parlé jeudi matin pour ceux qui étaient là, c'est la notion, comment on a vu que le Rabbi faisait confiance. Il savait faire confiance aux gens. Quand tu prends un jeune homme, ou un jeune marié, parce qu'il envoyait même des jeunes hommes, d'accord? Il vient de se marier où il est tout jeune, tu l'envoies dans un pays où il n'y a personne, et tu lui dis, toi tu vas monter le judaïsme là-bas. On n'a pas envoyé un cadre qui a 40 ans, 50 ans, qui a déjà 10 ans d'expérience, qui a déjà fait toutes les grandes écoles, d'accord, qui a déjà fait l'expérience. On a envoyé quelqu'un, un jeune marié. Des fois, c'était même des jeunes hommes, d'accord, pour quelques mois. On l'envoie, on lui dit, toi, tu vas élever le judaïsme là-bas. Vous savez la confiance qu'il prend en lui, cette personne-là? Ça veut dire que le rabbi lui donne le sentiment, j'ai confiance en toi, tu peux réussir. Ben, c'est ça ce qu'on est en train de dire au Benoni ici. Ce qu'on est en train de dire au Benoni, on lui dit, il faut que tu aies confiance en toi. Qu'est-ce qu'il fait l'Yetzara pour t'enlever ta confiance? Il dit, ah, t'as vu? Ta tefila, elle vaut rien. La preuve, regarde la pensée tordue qui s'est tombée dans la tête, hein. Zerma, 10 heures de tefila. Elle vaut rien, ta pensée. T'as passé ta tefila, t'es resté 5 heures à étudier. Ça vaut rien, regarde les pensées qui tombent dans la tête. Qu'est-ce qu'on répond au Benoni? On lui répond, on lui dit, Akadosh Baruch Hu, il a confiance en toi. Akadosh Baruch Hu est conscient des efforts que tu fais. Et Akadosh Baruch Hu a confiance en toi. Yes, you can do it. D'accord? Tu peux le faire. Tu dois le faire. Juste commence, tu vas le faire. C'est sûr que tu vas réussir. Just do it, tu vas le faire. C'est ça l'enseignement. Qu'on parle au Benoni, et ça on l'a vu très très fort chez le Rabbi. Il venait voir un enfant, un adulte, il te donne le sentiment qu'il te fait confiance, que tu dois réussir et tu peux réussir. Alors nous, juste, on va essayer de dire, on va dire le Chaim, d'accord? Que Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on prenne confiance en nous-mêmes, qu'on sache faire confiance à nos enfants, faire confiance à nos femmes, qu'on sache seul faire confiance. Se faire confiance, se dire qu'on peut le faire. Et se dire que, mais quand on voit ça, on dit, mais attends, Benoni, c'est impossible, laisse tomber, je suis à des années-lumière. Non, tu peux le faire. Tu as en toi une neshama, et chaque fois que tu arrives à combattre le Yitzhara, c'est un plaisir énorme à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il faut se dire. Chaque fois qu'on arrive à repousser, même si le Yitzhara, je l'ai repoussé 5 secondes et qu'il m'a appris à attraper pendant une heure, c'est 5 secondes, c'est déjà une mitzvah. Il faut pas tomber. Il faut pas dire, mais de toute façon, qu'est-ce que ça vaut? De toute façon, je suis tombé après. Non. Ce que j'ai fait. Et la prochaine fois, j'essaierai de tenir encore plus jusqu'à ne pas tomber. C'est comme ça qu'il faut parler. Et c'est comme ça que le Benoni se dit, jusqu'à ce qu'au bout du compte, à force de se dire et de se répéter, eh ben, il prend confiance en soi. Et quand il a pris confiance en soi, eh ben, automatiquement, l'effet de l'impact de cette fille-là a un impact qui reste toute la journée. Et c'est grâce à ça qu'il arrive à ne pas fauter, même quand le Yitzhara lui propose d'aller. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Alors, Bezrat Hashem, demain matin, je vais,